Ida Teicher, Luc Bricot, bonjour. Donc vous êtes les heureux réalisateurs de Cœur de Rocker, un film qui sort le 28 décembre. En fait, il est inspiré d'un ouvrage de Valérie Perronnet qui était sorti en octobre 2018. Cœur de Rocker, E-U-R-S, qui mentionnait donc le fabuleux destin de la chorale rock senior Salt and Pepper. Mais finalement, Ida, qui est scénariste du film, c'est plus une histoire vécue quand même avec votre maman, non?
Vécue, c'est surtout une histoire qui m'avait marquée parce que ma maman habite assez loin et voilà, et elle était pas bien, j'ai pas pu la voir à ce moment-là et je sais que quand elle a intégré une chorale, tous les symptômes ont disparu et elle a recommencé à vivre. Donc ça m'avait marquée. Mais voilà pourquoi je me suis intéressée à cette chorale. Voilà pourquoi. Enfin, je pense que c'est une histoire. On peut s'y intéresser même si on n'a pas vécu ça. Mais le fait que je l'ai retenu si fort, oui, je pense que c'est lié à ça, oui.
Alors, vous êtes co-scénariste avec Julie Manoukian et Né Moleno. Vous répartissez comment les tâches pour au niveau d'écriture?
Alors, on a d'abord, il faut quand même que je précise que c'est quand je cherchais une histoire autour d'une chorale, c'est Né Moleno qui m'avait dit, tiens, j'ai entendu parler, parce que moi je regarde pas la télé, il regarde la télé, il me dit, j'ai vu un groupe de gens âgés qui est super drôle et tout à la télé, il faut absolument que tu ailles voir ça. On a toujours quelqu'un qui nous dit. Et donc j'ai un peu et là on a su qu'il y avait le roman, j'en ai parlé au producteur et avec Né Moleno on a dégrossi en fait le roman, voir de quoi on allait parler, on a mis les premières bases de l'histoire et après lui il est parti sur un autre projet et là j'ai travaillé avec Julie sur l'écriture du scénario à proprement dit.
Voilà. Alors justement au niveau producteur c'est Yves Marmion, les films du 24 avec également Romain Rochman pour les films du premier. Vous le connaissiez, Luc et Yves, puisque vous avez quand même été premier assistant pour lui sur notamment Voyez comme on danse et Qu'est-ce qu'on a fait, non?
Oui, tout à fait. Je connaissais donc Romain et Yves et séparément parce que chacun avait produit leur film. Et je pense que c'est comme ça que Yves a pensé à moi pour accompagner avec Ida. Au tout début, c'était encore un synopsis de mémoire.
Oui.
On avait encore un grand synopsis et il s'est dit, tiens, il y a peut-être une collaboration qui peut fonctionner. Ce qu'on racontait tout à l'heure, il y avait un peu l'idée de, il a un peu assemblé les couleurs. Avec Ida, on a parlé du film énormément, mais on parlait des scènes en couleurs. Et je pense qu'il y avait un peu le même principe de nous rassembler. Et l'idée, c'était quand même, ce qui était compliqué, c'est qu'on voulait tout faire du chant et du chant live. Donc il y avait un problème technique qui paraissait très vite. Tout le monde nous a dit, oh là là, mais il faut surtout pas se lancer dans cette opération. Et surtout avec une chorale, oh là, une chorale âgée, oh là, vous êtes dingue, ça va jamais marcher. Ils tiendront jamais, c'est pas possible, ça va pas sonner, c'est pas possible. Mais on dit, mais si, ça va fonctionner. Donc il y avait un peu ce pari.
Nous, c'était la condition. On était là-dessus, ça ou rien.
On y va, mais on va chanter en live, et on va vraiment chanter, et on va ramener de l'émotion avec le chant. Et on va ramener une histoire, il faut que le chant, il soit pas. On en voit
pièces rajoutées.
Voilà, on écoute et on voit tellement de chants maintenant, tellement de concours, de choses avec des choses qui sont parfaites et magnifiques, mais qui au bout du moment de la troisième chose parfaite, s'il n'y a plus rien d'autre que du parfait, ça glisse. Et on s'est dit, mais là, on raconte une vraie vie de personnes d'un certain âge chez leur histoire, on va tourner avec la vraie chorale et on va faire du chant live. Voilà, comme un vrai concert.
Dès le départ, vous saviez que vous alliez prendre ici, il y en a 14 de Salt and Pepper qui ont participé, que vous alliez mélanger ça avec les comédiens professionnels.
Oui, 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 c'est ce qu'on voulait en tout cas. On ne savait pas si on allait y arriver parce qu'on était dans une période très compliquée. On était en plein Covid. Donc il y avait eu à un moment donné, on a pensé éventuellement à recomposer une chorale, mais non.
C'est arrêté
non,
très
non,
vite.
Non. Ouais. Et puis on les avait rencontrés, ils étaient si truculents et puis si curieux de ce qu'on faisait. On s'est dit non, c'est absurde de recomposer une chorale alors qu'on a les vrais et qui sont demandeurs et qui sont eux-mêmes. Ils sont.
Et l'alchimie. C'est bien passé avec les comédiens. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu
rien. Quelques yeux verts noirs. Bon, ils ont cassé 2-3 décors. Ben, rien de. C'est des rockers. Rockers avant tout.
C'est eux finalement qui ont mis l'incendie
au début du tournage. Mais c'était juste une petite escarmouche comme ils disent dans le Nord. Voilà, rien de particulier. Non, non, mais c'était alors extrêmement bien passé. C'est drôle parce que la chorale était inquiète pas du chant mais du jeu et de se retrouver au milieu de ses acteurs, et les acteurs étaient inquiets, pas du jeu mais du chant, de se retrouver devant la chorale. Donc comme les deux groupes étaient extrêmement inquiets de leur rencontre et de l'association, mais chacun avec des peurs différentes, finalement ils se sont totalement composés et c'est une alchimie. Mais même quand ils se revoient maintenant, il n'y avait pas de différence entre...
Mais je crois qu'ils s'écrivent en plus.
Ils s'écrivent, ils s'échangent et tout. Il y a un groupe, mais un vrai groupe. Il n'y a aucune différence entre la chorale, les acteurs. Quelqu'un de l'extérieur ne pouvait pas savoir qui était acteur ou qui faisait partie de la chorale.
Ce soir, c'est l'avant-première à Dunkerque. Ça va rocker quand même.
J'espère.
Parce qu'en plus de ça, vous avez les Soldat Pepper et les comédiens qui sont présents. Ça va être chaud. Là.
Je pense que l'idée, on a acheté quelques extincteurs. Bon, j'ai conseillé à la production de prévoir. Les pompiers seront prévenus. Ouais.
Bon, le casting, il y a Mathilde Seigné. Vous l'aviez croisé sur camping quand vous étiez comédienne, non?
Ça fait des choses.
Mais Cornélia.
Alors, j'étais pas comédienne, c'était juste que je faisais ça pour gagner ma vie à un moment donné. Mais c'est pas mon métier. C'est très difficile de jouer.
À ce moment-là que vous l'aviez.
Je l'ai croisé et on a passé pas mal de temps, parce que même si j'avais un petit rôle, on était présent, tous les petits rôles étaient présents dans ce camping. Donc, en effet, on a passé un mois et demi, deux mois de vacances à Arcachon, quoi, au Pilat.
Ça crée des liens. Et alors, bon, bien entendu, dans le reste du quartier, fatalement, il y a un nom qui ressort, c'est Anne Benoît. Là, on peut le dire quand même. Elle a une voix aussi. C'est assez surprenant. Est-ce que vous attendiez à ce que ce soit elle qui reprenne ce morceau de Bowie?
Non. Alors. Il le fallait de toute façon. Donc le rôle était écrit comme ça. Donc et on l'a casté. Je veux dire, on l'a rencontré et puis on avait des doutes. Elle aussi.
Plus que des doutes. Ce qui est assez drôle pour la petite histoire. Moi, j'ai travaillé comme assistant. J'avais fait un film avec Anne Benoît, donc je connaissais Anne Benoît et je ne pouvais pas.
Pauline détective.
J'en ai fait deux. Moi, je pensais même pas à celui-ci. Je pensais Pauline Bravo, et je pensais même à un autre film, avec Anne Benoît. J'en ai fait un autre qui était le pilote des Petits Meurtres d'Agatha Christie, qui était le premier épisode, et c'était Anne Benoît qui jouait dedans. Et je me souviens d'elle à ce moment-là parce qu'elle avait un rôle plus proche de par rapport à notre film, avec cette voix qu'elle avait. Et je pensais même au premier film que j'avais fait avec elle, et qui était mon premier film comme premier assistant quasiment, donc ça m'avait marqué. Et là, donc bloqué par le Covid, je ne pouvais pas. Et tu avais rencontré Anne, j'étais pas là.
Dans le Nord,
j'étais bloqué. Et tu avais rencontré Anne Benoît, et tu m'avais dit, oh là là, c'est drôle, elle est tellement angoissée,
elle est
sa
très
voix.
Très angoissée. C'est une personne très angoissée. Alors qu'elle est, elle est merveilleuse, c'est une femme incroyable et elle doute énormément d'elle. Donc j'étais là seule face à elle et puis
elle ne sait pas chanter.
Elle me disait j'y arriverai pas. Et en même temps je veux le faire. On va passer un test et puis on verra. Donc je l'appelais et puis après quand elle a passé le test,
La fameuse anecdote du test. Donc ils sont en studio avec l'ingénieur du son, vous voyez. Donc elle commence à chanter, et l'ingénieur du son lance en général au début la vraie chanson dans une oreille pour que les acteurs aient le tempo, et après il l'enlève et on repasse sur la voix de la comédienne. Et quand l'ingénieur du son lance, on lui dit mais il y a un problème, t'es resté sur la voix de Bowie. Il fait non, c'est pas Bowie, c'est Anne Benoît qui chante. Et là, c'est une évidence. Et elle, au début, elle dit j'ai pas réussi.
J'étais très anxieuse moi aussi, parce que ça faisait longtemps que je voulais travailler avec cette comédienne. Je l'aime beaucoup, je la vois souvent en second rôle et je trouve vraiment qu'elle dégage quelque chose, je la trouve belle. Enfin voilà, donc c'était un.
Le reste du casting, Andrea Ferréol, Brigitte Rouen, Myriam Boyer. Vous avez aussi testé les voix, puisque c'était essentiel quand même. Ça.
Oui, bien sûr. Même si on ne cherchait pas des voix parfaites, on cherchait des voix avec un vécu. Mais oui, on les a testées. Il fallait que tout ça s'accorde, en fait. Il fallait faire un tout avec des voix différentes.
C'était un casting à l'envers. Ils ne venaient pas passer un casting du texte. L'enjeu, on leur disait, il y avait un catalogue, il y avait une vingtaine de chansons. On leur disait, vous choisissez une chanson, et on se retrouve dans deux semaines dans un studio et vous chantez la chanson. C'était l'enjeu pour
le Bernard Lecoq, il avait choisi quoi?
Eh bien, là, il chante bien. Et alors, le pauvre Bernard Lecoq.
Rock'n'roll de l'art.
Rock'n'roll de l'art. Et c'est lui qui est un peu le porteur chanteur sur du rock and roll de l'art, même si, et c'est lui qui le, c'était pas dans l'histoire, mais c'est lui qui le chantait le mieux.
Ouais, c'est pas une chanson facile à chanter.
Non. Et il adore les bières belges.
C'est okay. Vrai.
Oh. Et oui, bah, il le dit.
C'est dans le texte.
Je préfère les bières belges.
Et donc finalement, je veux dire, il y a eu une alchimie quand même avec tous ces comédiens entre eux. Pas de problème d'ego.
Des petits coups.
Minime.
Non, mais il y avait un petit truc. Elles ont quand même toutes des carrières et des. Avec Mathilde, elles ont toutes des carrières et des enjeux. Donc.
Non, mais je pense aussi qu'il y a quelque chose qui nous a beaucoup aidé. C'est le fait que les gens étaient tellement malheureux de cette période d'isolement que là, on s'est retrouvés dans une situation où tout le monde était encore isolé, nous on était ensemble, tout le monde était ensemble et on pouvait boire, être dans un café
un faux café avec des figurants, mais pour eux c'était vraiment
masque,
magique, ouais.
Enfin, et être ensemble et dans les conditions d'une vie normale, et cette vie normale était tout à fait extraordinaire à ce moment là puisque c'était pas normal d'être ensemble sans masque à ce moment là et je pense que ça a créé une alchimie. Il y avait déjà tout ce bonheur d'être là dans cette situation et dans cette période terrible.
Il faut dire, c'est vrai que les ennuis, vous les avez quand même cumulés. Non, il y a le Covid, oui. Avec quand même quelques cas positifs chez vous. Il y a eu l'incendie. Il y a eu les années de Mathilde aussi, qui a quand même.
Et Anne Benoît qui s'est cassé un bras, mais ça se voit pas. Le poignet cassé. Oui, quelques petits soucis
Maintenant, on en rigole, mais enfin, c'est vrai que ce moment-même, c'est.
Bah, déjà, le film, le concept du film de faire chanter une chorale, on va dire, du troisième âge à Dunkerque, en plein variant anglais, oui. Avant le vaccin. Oui. Déjà, le pari de départ, il paraissait tellement dingue,
tellement
que finalement, même ses problèmes, sans être arrivé à des choses très compliquées, c'était déjà, pour nous, si vous voulez, ça paraissait tellement haut le truc, on aurait dit une histoire belge, qu'on aurait dit une blague au début. On va faire une chorale.
Merci.
Vous allez chanter, vous allez faire un film sur. Vous allez où? À Dunkerque, tout le monde, c'était la ville, était vraiment le plus confiné de France.
Le variant anglais.
Une chorale avec du troisième âge. Vous rigolez là,
c'est
une blague quoi. Et donc finalement, plaisir de se retrouver ensemble.
Et quand on y est, les obstacles arrivent et puis il faut avancer.
Tout le monde a un tel plaisir de se retrouver ensemble.
On avait cette énergie, une énergie incroyable d'être ensemble.
Mais c'est drôle parce que c'est ce film pour l'énergie. Et on a tous les deux un petit Hector qui a 12 ans, on a tous les deux un enfant du même âge, petit garçon, on a plusieurs enfants, même prénom, le même âge.
Et, ça crée des liens.
Et regardez nos deux garçons, regardez les rushs, vous voyez, on reçoit régulièrement les images du film. Et il y a eu moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'était ouais, mais c'est des super héros, c'est papy, mamie, quoi. Déjà, ce qu'ils faisaient à l'époque,
quand
ils chantent, ils me disent, mais c'est ça les super héros, mais ils sont tellement incroyables. Et, trop mignon parce qu'ils adorent le petit chanteur. Et surtout, l'image, comment ça a transformé. Parce que c'est vrai que c'est des super. Et à l'époque, c'était pas nous les super héros, c'est eux qui chantaient, qui enlevaient leur masque pour faire du rock, pour faire ce qu'ils aiment. C'est la fiction rattrapait la réalité parce que eux prenaient des vrais risques pour faire beaucoup plus que nous, prenaient des vrais risques pour faire le film. Et ça se ressent dans le film. Et quand on voit le film, on dit, mais c'est eux les super. C'est pas un mec en collant à poids ou avec une cape, quoi.
Exactement.
C'est vraiment eux les super héros. Et mon fils et nos deux fils ont fait, mais c'est dingue, c'est un super film pour eux parce que c'est eux, nos papy, mamie, qui sont des.
Oui, c'est vraiment tout public. Hein.
C'est clair.
Au niveau des choix musicaux, on n'avait pas eu de problème au niveau des droits. Enfin, dès le départ, vous saviez ce que vous alliez prendre, et notamment le tome. Ça doit pas être évident quand même pour obtenir les droits du Major Tom, non?
Eh ben non, on a dû.
Quand on paye, vous allez me dire.
Non, c'était pas celui-ci.
On a dû vraiment. Parce que. Et Luc, vas-y, parce que tu expliques très bien.
Mais alors, l'histoire de ce morceau, donc pour nous, c'est là où le film switchait au moment de l'église. On sortait d'une comédie, le film se transformait, et renvoyait le deuxième message. Donc pour nous, toute cette création musicale, elle a été construite pour. pour arriver au morceau de Bobby. Donc on a vraiment pensé, imaginé les morceaux. Et là, il y a eu beaucoup de variations, mais nous, ce morceau, c'était indispensable. C'était le point d'orgue. Et justement, pour avoir ce point d'orgue, il fallait le réorchestrer, parce qu'il est complètement, on l'a totalement transformé, l'adapter. Donc on a déjà trouvé un de Benoît. Et le problème, c'est que les ayants droit, David Bowie, nous dit oui, mais c'est pas qu'une question d'argent. Vous changez le morceau de Monsieur Bowie. Là, c'est pas possible. Donc on a dit ok, comment on fait? Et tout d'un coup, on a trouvé la solution. On a enregistré un Benoît d'abord. On a fait une maquette du morceau, leur dire voilà où on veut l'amener, et ils nous ont dit c'est incroyable, l'orgue et tout, c'est génial, allez-y. Et au début, on n'avait pas les droits de David Bowie. Wow. C'était hors de question pour eux de
changer. Évidemment, le scénario, il est quand même basé
le scénario musical et le scénario, les deux, donc
même
tous les morceaux,
toute la dramaturgie,
ce morceau là et là, c'était, on s'est dit waouh, et là c'était le morceau
coup de poker.
Ils nous ont dit ok, mais un orgue, il n'y a pas d'orgue dans le morceau, c'est hors de question, c'est vous, faut pas le changer. On dit mais ça marchera pas, donc c'était le vrai coup de poker, quoi.
Et pour les autres morceaux,
Les autres morceaux, on n'a pas eu cette demande. Après les autres morceaux, on est dans plus des problématiques classiques.
Oui.
Parce qu'on gardait un peu la structure du morceau, on ne changeait pas. On la réinterprète, mais c'était.
Après, il y a des morceaux qu'on n'a pas eu. Par exemple, Rita Mitsuko, elle n'a pas voulu parce qu'on la mettait sur une séquence où ils vont au festival.
C'était
compliqué parce que la musique est vraiment liée à la dramaturgie. Et donc à chaque fois qu'il y avait une musique qui sautait, il fallait tout réécrire, il fallait chanter. Parfois c'était un peu un jeu de chaise musicale aussi, parce qu'il fallait choisir une autre chanson, mais elle n'allait pas avec celle d'avant.
Et artistiquement, on se dit ah, mais finalement elle est sublime, et dans une chorale ça ne fonctionne pas.
Voilà, il y avait ça aussi.
C'est le problème de repasser d'un morceau rock qui garde son enjeu rock sans perdre le côté de la chorale et qui puisse être chanté et qui fonctionne. Parce que comme on voulait tout faire en live, on s'est dit ben, ça va être vraiment notre chorale qui chante. On nous a dit oui, mais prenez d'autres personnes. Ça marche pas. Ils ont 75 ans, ils chantent avec leur voix, ils ramènent leurs émotions. Il faut que ça soit eux. Donc il y a des morceaux qui fonctionnaient pas non plus.
Et Metallica, dès le départ, vous saviez que vous aviez la scène?
On voulait.
C'est énorme.
Oui, on voulait le Bigger Than Life.
Et c'est Ida qui a fait. Vas-y, raconte, c'est toi, parce que c'était une super mail. On s'est dit avec comment faire.
J'ai écouté leurs chansons, enfin je connaissais un peu, mais j'ai écouté leurs chansons, j'ai lu des interviews et j'ai saisi tous les points communs avec l'histoire qu'on racontait. Et il se trouve que ce sont des gens super qui ont un combat commun à notre film, c'est-à-dire la résistance, le combat pour rester jeune, rester sur scène, rester vivant. Et donc j'ai fait un mail en leur citant aussi les musiques qu'on allait choisir. Ils aimaient beaucoup Queen aussi. Et leur dire notre intention de film. Et ils ont été d'accord. Attendu pendant quelques jours. On était prêts à dire sur quoi on va se rabattre s'ils disent non. Et le manager nous a écrit We are on board. Et quand on a reçu ça,
et on doit leur envoyer le film. Oui, parce qu'en plus, on prenait leur image. Là, on était en sortie du contexte Metallica, avec chanté par un autre morceau. C'est pareil. C'était pas une évidence, et eux nous ont, et on peut le dire, ils nous ont accordé leur accord, ils ont aimé la scène et gratuitement.
On est très reconnaissants.
Metallica, eux c'est vraiment des rockers, et en disant parce qu'on les citait comme l'image du rock, c'est pour ça que c'était le côté emblématique, et c'est aussi pour ça, et on se dit mais qui, même leur logo, leur nom, je sais pas, pour plein, ils racontent le rock, et on leur dit on veut juste et ils nous ont dit ok, ça nous plaît, et on vient avec vous, on vous suit.
Alors Ida, je dois quand même vous lancer des fleurs, parce que je trouve qu'il y a des répliques mémorables. Même à la retraite, on court après le temps. Les comptines, ça sent la naphtaline. Quand ils chantent, ils s'allument. C'est beau, ça. Merci.
Merci.
On rappelle Cœur de Rocker, qui sort le 28 décembre. Luc, Ida, merci.
Merci à vous.
Nous vous remercions. Merci.